ensemble, chers frères et sœurs. Saint-Esprit de Dieu, tu es là présent en nous et tu es avec nous et tu es parmi nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi parce que toi seul es la puissance de Dieu. La Bible dit, dans nos faiblesses, nous ne savons même pas prier. Mais toi, par des soupirs et des gémissements, tu nous aides à dire exactement ce qu'il faut dire pour que cela soit pris en compte par le Seigneur parce que étant aligné sur sa parole. Parce que nous demandons ton aide, nous demandons ton assistance, nous demandons ton soutien, nous demandons ta lumière, nous demandons ta présence en ce moment. Nous te remercions de nous l'avoir déjà accordé. Nous allons nous mettre à méditer ensemble, à partager, à témoigner. Mais que ce soit toi qui nous instruis, qui nous conduis, qui nous édifie, qui nous bâtit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, par l'autorité que nous avons reçue en toi, nous renversons toute hauteur de pensée et raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Et nous fléchissons genoux devant ce nom puissant, glorieux qu'est le nom de Jésus-Christ, afin que le monde voit et sache que le Dieu qui est le Créateur, c'est le Dieu qui est sur le trône et c'est le Dieu qui est au contrôle. Dans le nom de Jésus, que nous saturons l'atmosphère par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de BMVG, nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre programme de méditation des Écritures du jour. Soyez donc abondamment bénis en ce lundi du 9 août de l'an de grâce 2021. Nous allons essentiellement partager sur le chapitre 3 du livre de Luc. Pour en savoir davantage sur les clés, les secrets révélés dans ce chapitre qui est l'un des chapitres d'un des livres du Nouveau Testament. Nous savons que nous avons pratiquement 27 livres dans le Nouveau Testament, donc c'est un travail ardu et le Seigneur nous aide à avancer sur ce parcours. Nous sommes frères Orphée des États-Unis. En collaboration avec la sœur Caroline du Togo et le frère Almé du Congo, Brazza, tous animateurs de cette méditation du jour, sous la puissante direction donc de notre hôte, le Saint-Esprit. Amen. Nos thèmes retenus pour faire donc les recherches et réussir notre méditation active du jour sont les suivantes. Primo. D'après la thématique de la prédication de Jean-Baptiste sur la repentance pour se préparer à la venue du Messie qui vient sauver l'humanité et aussi la bonne nouvelle du retour du royaume de Dieu parmi notre peuple sur terre, ce que nous retrouvons dans Luc 3, verset 1 à 20, quelles leçons retenir pour mieux vivre et réussir cette préparation ultime à la rencontre de Dieu. Ça, c'est le premier point que nous allons méditer ensemble. Deuxième point à méditer, c'est sur la thématique du baptême biblique de Jésus-Christ que nous retrouvons dans Luc 3, versets 21-22, et de son apparition, ou bien l'apparition de Dieu sous forme de sa voix, et qui a approuvé justement ce geste symbolique. Est-ce que nous devons conclure que ce modèle de baptême s'impose ou est-ce qu'il y a d'autres formes de baptême chrétien qui sont aussi acceptables? Troisième chose que nous allons méditer ensemble, c'est la thématique de la généalogie de Jésus-Christ. Nous l'avons déjà vu tantôt dans Matthieu, maintenant nous la voyons encore dans Luc. Et c'est dans Luc 3, du verset 23 à 38. Alors, comment toi et moi pourrons-nous mieux expliquer notre adoption éternelle pour nous intégrer dans cette lignée ascendante jusqu'à Dieu, celui qui est notre Créateur, notre Sauveur, qui s'est révélé en Christ incarné? Prenons donc la première partie qui est la thématique de la prédication de Jean-Baptiste sur la repentance pour mieux se préparer à la venue de Jésus-Christ. Nous partons d'un simple fait. Imagine que un ami en ville t'appelle pour te dire qu'il vient te visiter à la maison. Qu'est-ce que tu fais? D'habitude, tu t'assures que tu seras disponible pour le recevoir et que tu mettras tout ce qu'il faut quand il va venir pour le mettre à l'aise, n'est-ce pas? Voilà, c'est fait de manière proportionnelle. Maintenant, si cet ami vient de l'étranger et dit qu'il va venir passer une semaine chez toi, peut-être pour les vacances ou bien peut-être pour une occasion, qu'est-ce que tu fais? Les préparatifs sont beaucoup plus intenses, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Voilà, tu ne vas pas faire les mêmes préparatifs que tu avais fait quand c'était un ami qui était en ville qui devait passer te voir. Ces préparatifs pour un ami qui vient de l'étranger, surtout qui vient rester avec toi pendant quelque temps, sont plus importants, demandent beaucoup plus de ressources et de disponibilité. Ainsi, Jean-Baptiste était celui que Dieu a envoyé pour préparer la venue du Messie. Le Messie, c'est le terme qu'on utilise pour le Sauveur. Si nous nous retrouvons dans ces temps, des Juifs qui étaient déjà occupés par les Romains, qui avaient conquis une partie majeure du monde, et donc qui avaient conquis aussi le territoire d'Israël, et donc qui avaient soumis les Juifs d'Israël sous l'autorité romaine, eux tous, ils attendaient un Messie, un Sauveur. Parce qu'ils étaient sous domination. Or, les Écritures leur avaient annoncé que le Sauveur viendra les délivrer de la domination. Comme ils ont toujours écouté, entendu des autres histoires où, étant sous domination, ils ont été sauvés plusieurs fois. Ils étaient en Égypte, ils ont été sauvés. Ils étaient sous des dominations des peuples divers, des attaques diverses, ils ont été sauvés. Même l'histoire de Goliath et de David, vous vous rappelez, c'était une conquête d'un peuple ennemi et dont un seul guerrier avait défié tout Israël. Mais David est venu honorer justement ce peuple en tuant cet impie qui s'était levé contre, pas seulement Israël, mais contre Dieu. Ainsi, Jean-Baptiste est venu pour préparer cela. D'après nos recherches, nous disons que bien que le nom implique qu'il baptisait donc les gens, ce qu'il faisait effectivement, la vie de Jean-Baptiste ne se limitait en rien à cette activité. Nous avons déjà parlé de sa naissance un peu tout à fait spéciale, mais nous savons que la vie d'adulte de Jean s'est caractérisée par la dévotion et la soumission à Jésus-Christ et à son royaume qui revenait. La voix de Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. Nous voyons ça dans Jean 1, verset 23. Tandis qu'il proclamait la venue du Messie à un peuple qui avait désespérément besoin d'un sauveur. Il était le précurseur de l'évangéliste moderne, du fait qu'il ne faisait, ou bien qu'il faisait part sans aucune honte du message de la venue de Jésus-Christ. C'était un homme de foi et un modèle pour ceux qui souhaitent partager leur foi avec d'autres personnes. Nous avons vu comment il a fini aussi sa vie, décapité. Et nous savons qu'il est auprès du Seigneur. Mais son message essentiel aujourd'hui qui nous amène à réfléchir dans cette thématique, c'est la repentance. la préparation dans l'attitude pour rencontrer Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et pour accueillir cette bonne nouvelle du retour du royaume des cieux parmi nous. Et si vous voyez un peu le passage que nous avons eu, il prenait le temps de parler au peuple. Et le peuple venait vers lui et il prenait le temps, quand le peuple est convaincu par son message, de baptiser ce peuple-là, en faisant des reproches ou bien en rappelant à l'ordre qui devait être rappelé à l'ordre. Tout ça là, c'est pour préparer le cœur de ce peuple qui attendait un sauveur mais qui n'était pas prêt. Et c'est là où nous avons vu cette nouvelle pratique qu'on appelle le baptême d'eau, précisément. La question que nous posons, c'est pourquoi Jésus a-t-il été baptisé suivant les préceptes et les normes définies par Jean-Baptiste, alors qu'il n'avait même pas besoin de le faire? Bien-aimé, à la première vue, ce que nous pouvons dire, c'est que le baptême de Jésus semble tout à fait inutile. Toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, puisque le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance, d'après ce que nous avons vu dans Matthieu 3, verset 11. Alors que Jésus, d'après les Écritures, était sans péché. Jean était d'ailleurs lui-même surpris quand Jésus, son cousin, est venu vers lui. Et il était conscient de son péché et de son indignité en tant qu'homme pécheur qui avait lui-même besoin de repentance, de baptiser l'agneau parfait de Dieu. Et Jean disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Matthieu 3, verset 14. Jésus lui répondit de le faire. Et il est écrit ceci. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. N'allons pas rentrer dans toutes les polémiques, c'est que nous avons vu simplement que Jésus, qui a suivi les normes définies par son cousin Jean-Baptiste pour se préparer à la venue du Messie, et qui a fait la bonne pratique que cela imposait, a permis à ce que Dieu des cieux, par sa voix sublime, a accepté cet acte volontaire de soumission et a approuvé cet acte en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. De ce point de vue, nous comprenons très bien que Jésus a montré l'exemple, comme d'ailleurs ce qu'il va faire pendant son ministère pour montrer l'exemple. Nous posons aujourd'hui la question de savoir si ce baptême d'eau, qui est le baptême de repentance, est le seul modèle de baptême que nous devons suivre. Et pourquoi il y a plusieurs autres formes de baptême que les gens font? Quelle est la bonne manière de baptiser? Ce qu'on peut dire à cette question se trouve même dans le mot baptisé, qui vient du grec et signifie immerger dans l'eau. Donc, tu dois comprendre, bien-aimé, que le baptême par aspersion, qui est une autre forme de baptême où on prend un peu de l'eau versus la tête de quelqu'un, est un oxymore. C'est une contradiction si nous voulons respecter les normes qui ont été faites. Et qui signifiait donc immerger dans l'eau, par aspersion d'eau. Le baptême est par définition un acte d'immersion dans l'eau, plongé dans l'eau. Alors, beaucoup de gens se demandent quelle est même la signification symbolique de ce baptême-là. Bien aimé, je dirais simplement que le baptême illustre ce choix volontaire où on s'identifie à la mort, à l'enterrement et à la résurrection de Jésus. Tu te plonges dans un élément naturel pour dire je suis mort et on te relève pour te dire que maintenant tu es vivant. Il est écrit dans Romains 6, verset 3 à 4, ceci: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Jésus est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Amen. L'immersion dans l'eau symbolise donc la mort et l'enterrement avec Jésus, bien-aimé, tandis que la sortie de l'eau symbolise la résurrection de Jésus. Par conséquent, le baptême par immersion est la seule forme de baptême qui illustre l'ensevelissement, pardon, et la résurrection avec Jésus-Christ. Le baptême par aspersion est apparu pour ceux qui ne le savent pas en raison de la pratique non biblique du baptême des enfants. Nous n'allons pas aller dans cette polémique doctrinale, mais tout ce que nous devons retenir, c'est que le baptême par immersion, s'il est le mot d'identification à Christ le plus biblique, n'est pas une condition du salut. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es baptisé donc tu as le salut. Il faut que les gens se détrompent de ça. Le salut est une autre chose, le baptême est un complément du salut. Le baptême est plutôt un acte d'obéissance et une proclamation publique de ta foi nouvelle en Christ et de ton identification à lui. Le baptême est une image de notre abandon de notre ancienne vie. Pour dire publiquement, j'abandonne mon ancienne vie pour devenir une nouvelle créature que la Bible a confirmée quand nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Le baptême par immersion est donc la seule forme de baptême qui illustre parfaitement ce changement radical et qui est physique. C'est pourquoi la plupart du temps, après le baptême par immersion, où on rentre dans ce que nous appelons la purification, ou bien l'aspect purification de l'être, il y a souvent un deuxième baptême qui vient confirmer ce baptême-là, qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. Alors, tu vas me poser la question de savoir, oui, frère Orphée, on parle souvent de baptême de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? Je vais clarifier ça aussi un peu dans ce parcours de notre méditation, disant que le baptême du Saint-Esprit peut se définir comme l'œuvre parfaite même de Dieu, par laquelle il fait entrer le croyant en communion avec Christ et avec les autres croyants au sein du corps du Christ au moment du salut, au moment où tu décides de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême du Saint-Esprit a été annoncé par Jean-Baptiste, nous le voyons dans Marc 1, verset 8, et par Jésus même avant son ascension. Nous voyons dans le livre qui est rappelé dans le livre des Actes 1, verset 5, en disant, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse donc de Jésus s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Nous nous rappelons bien dans le livre des Actes 2, du verset 1 à 4, et même tout le chapitre si vous pouvez lire. Donc pour la première fois, c'est ce qu'on a vu, que le Saint-Esprit est venu habiter dans les hommes. Dieu est revenu habiter en toi et en moi de manière permanente. Et ainsi, les premières églises qui sont les membres croyantes de nous, les hommes sur terre, fut né. Quand nous poursuivons un peu dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13, nous voyons que la doctrine du baptême du Saint-Esprit est plus ou moins explicite en disant, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Il est important de noter que nous avons tous été baptisés de l'esprit. Il s'agit donc d'un baptême que tous les croyants ont reçu et qui va de pair avec le salut, non d'une expérience réservée à certains, comme on le croyait. Bien-aimé, si tu vois un peu dans Romains 6, versets 1 à 4, on ne mentionne pas directement l'Esprit de Dieu. Pourtant, il décrit la position des croyants devant Dieu de manière semblable. Dans 1 Corinthiens, nous disons ceci: qui dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Pardon. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement non. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrons-nous encore vivre dans le péché? Ignorons-nous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême, en sa mort et nous avons donc été ensevelis afin que lui-même, comme Christ, est ressuscité par la gloire de Dieu, de même que nous aussi nous menions une vie nouvelle. Il est important de noter ces points-ci que pour conclure, le baptême du Saint-Esprit a un effet double. D'abord, il nous greffe sur le corps de Jésus-Christ, l'Église, et ensuite, il actualise notre association à la crucifixion de Jésus-Christ. Faire partie donc du corps de Christ ou bien de l'Église veut dire que nous sommes ressuscités avec lui pour une nouvelle vie, que nous voyons dans Romains 6, verset 4. Nous devons donc exercer nos dons spirituels, parce qu'au baptême, le don spirituel est donné pour contribuer au fonctionnement de tout ce corps, de toute cette communauté qui ne cesse de grandir, comme ça a été développé dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 13, avec nos différents dons à développer. L'expérience donc du baptême de l'Esprit est le fondement même de l'unité de l'Église, comme le montre le contexte d'Éphésiens 4, verset 5. Notre association à Christ dans sa mort, son enterrement et sa résurrection, donc, constitue le fondement de notre séparation du pouvoir du péché, parce que le Saint-Esprit vient briser justement cet esclavage et nous rendre maintenant adoptés par Christ et nous accueille dans sa grande famille qui est l'Église. C'est ce que nous pouvons dire un peu sur la première thématique. Et avec cette petite transition, nous passons donc à la deuxième thématique qui est, pardon, à la troisième thématique qui est de parler de la généalogie de Jésus-Christ. Vous rappelez que dans le livre de Matthieu, nous en avons parlé. Mais dans ce livre de Luc aussi, nous en parlons, surtout dans les versets 23 à 38. La présentation ici est un peu divers, est un peu différente de ce que nous avons vu avant. Et les gens se posent la question, est-ce que la Bible serait donc contradictoire? Pas du tout. Pourquoi y a-t-il deux généalogies différentes de Jésus en Matthieu et en Luc? Après nos recherches, nous avons compris qu'il y a deux généalogies de Jésus dans les Écritures. Effectivement, retournez dans le livre de Matthieu 1, vous allez voir la première forme. Et dans le livre de Luc 3 que nous étudions aujourd'hui, à partir du verset 23-38, je l'avais dit auparavant, nous avons aussi une autre forme. Matthieu l'a fait remonter jusqu'à Abraham. Par contre, Luc l'a fait remonter jusqu'à Adam. Ça, c'est la première remarque qu'il faut noter. Et pourtant, il y a de bonnes raisons de penser que Matthieu et Luc nous donnent deux généalogies complètement différentes. Par exemple, Matthieu dit que le père de Joseph est Jacob. Matthieu 1, verset 16. Tandis que Luc l'appelle Héli. Luc 3, verset 23. Matthieu fait remonter la lignée à Salomon, fils de David, Matthieu 1, verset 6, tandis que Luc la fait remonter à un autre fils de David, Nathan, Luc 3, verset 31. En fait, entre David et Jésus, le seul nom que les deux généalogies ont en commun sont Shealtiel et Zorobabel. Vous voyez ça dans Matthieu 1, verset 12, et puis dans Luc 3, verset 27. Certains mettent en avant cette différence comme la preuve que la Bible contient des erreurs, que c'est contradictoire. Ne les écoutez pas. Dieu ne se contredit jamais. Il faut simplement demander au Saint-Esprit de nous donner beaucoup plus de révélations pour voir comment connecter les nœuds, comment connecter les différents points. Cependant, les Juifs conservaient leurs archives très consciencieusement, comme vous le découvrez, ceux d'entre nous, bien d'entre vous qui avez eu le temps de faire les recherches, bien même d'aller en Israël. Surtout quand il s'agit de généalogie, les juifs sont très organisés et très conservateurs. Il est incontestable que Matthieu et Luc aient pu construire deux généalogies complètement contradictoires pour la même personne. Encore une fois, rappelons-le bien, de David à Jésus, leurs deux généalogies sont totalement différentes. Même Shealtiel et Zorobabel font probablement des références à des personnes différentes, portant le même nom. Matthieu dit que le père de Sichel était Jéconias, alors que Luc dit qu'il s'agissait de Néri. Il est normal pour un homme du nom de Sichel d'appeler son fils Zorobabel en référence au personnage célèbre qui portait ce nom. Nous voyons dans le livre de Esdras et dans le livre de Néhémie. Mais une explication possible proposée par l'historien de l'Église, Zeb, est que Matthieu a retracé la lignée primaire biologique de Jésus, tandis que Luc a pris en compte les mariages, les virats, c'est une expression qu'on utilise. Si un homme mourait sans avoir des fils, la tradition voulait que son frère épouse sa veuve et lui donne un fils qui porterait le nom du défunt. Bien que cela soit possible, il est peu probable que toutes les générations de David à Jésus aient pratiqué le mariage léviat, car les différences entre ces générations étaient énormes. D'après Ézéb, Melchi, quand nous voyons dans Luc 3, verset 24, et Matthan, quand nous voyons dans Matthieu 1, verset 5, ont tous été mariés à la même femme, que la tradition appelle Esther. Élie, dans Luc 3, verset 23, et Jacob, dans Matthieu 1, verset 15, étaient donc demi-frères. Ensuite, Élie est mort sans avoir de fils, et son demi-frère Jacob a épousé sa veuve, qui a donné naissance à Joseph. Ainsi, Joseph était le fils d'Élie, sur le plan légal, et le fils biologique de Jacob. Matthieu et Luc donc donnent la même généalogie, celle de Joseph. Mais Luc suit sa généalogie légale, tandis que Matthieu suit sa lignée biologique. Très important de voir ces nuances-là pour ne pas tomber dans le piège malin. Pour la plupart des exégètes conservateurs actuels, ils adhèrent à une autre hypothèse, selon laquelle donc Luc donnerait la généalogie de Marie et Matthieu celle de Joseph. Matthieu suivrait la lignée de Joseph, le père légal de Jésus, par Salomon, fils de David, tandis que Luc suivrait la lignée de Marie, mère biologique de Jésus, par Nathan, le fils de David. Mais bien aimé, étant donné qu'il n'y a pas deux mots grecs pour gendre, Joseph était considéré comme le fils d'Élie par son mariage avec Marie, la fille de ce dernier. Donc, par ces deux lignées, Jésus est un descendant de David, donc éligible pour être le Messie. Il est inhabituel de retracer une généalogie maternelle, mais le fait que Jésus soit né d'une vierge est également inhabituel. Donc, c'est pour cela que l'explication de Luc est que Jésus, étant comme on le croyait, fils de Joseph, dans Luc 3, verset 23, soit beaucoup plus clair pour nous. Pour terminer, nous dirons tout simplement que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons intégrer cette lignée ascendante de Jésus. Parce que Jésus nous a adoptés. Jésus t'a adopté le jour où tu l'as invité dans ta vie. Il t'a adopté, il t'a fait rejoindre à la famille céleste, la famille des croyants. Nous rappelons que c'est très important que toi et moi, nous puissions avoir Jésus dans notre vie. Et quand nous avons ce Jésus dans notre vie, que nous vivons comme il a vécu, en nous imprégnant de sa parole et en vivant au jour le jour les bonnes pratiques de cette parole, pour que nous révélions Christ dans nos générations, pour que d'autres personnes, parfois même tu ne leur parles pas, c'est ton mode de vie qui les influence, qu'ils ont aussi envie de venir rejoindre la famille. Dans la parabole, pour finir, dans la parabole du sept et des branches, de la vigne et des branches, pardon. Nous nous rappelons dans le livre de Jean 15, Jésus a été clair. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'inonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne porterez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, sans Jésus, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Jésus, nous faisons partie de la famille et nous devenons héritiers, co-héritiers de lui. Et nous pouvons tout faire. La parole dit ceci, avec Christ, nous faisons des exploits et c'est lui qui écrase nos ennemis et nous fait triompher de toute attaque, nous fait triompher de toute épreuve, nous fait triompher de tous nos ennemis. Que cela soit ta portion et la mienne, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce temps. Aide-nous encore à aller dans les profondeurs de ta parole. Révèle-nous les choses cachées et donne-nous de vivre ces choses parce que tu nous as donné la promesse que si nous méditons la parole, nous la ruminons, nous la retournons, nous l'approfondissons et que nous mettons en pratique ces choses-là qui sont écrites, qui sont révélées. C'est alors que nous connaîtrons du succès, c'est alors que nous réussirons, comme tu l'as rappelé à Josué dans le livre de Josué 1, verset 8. Aide-nous, Saint-Esprit, nous t'en supplions. Que la parole devienne vraiment notre mode de vie et notre bonne pratique de tous les jours. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, la balle est dans notre camp. Continuons de méditer, mais surtout, allons appliquer et venons témoigner. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen.